Il est 13h passé de 1 minute sur IDFM Radio Anguin. Bonjour, bonjour à toutes et à tous, c'est Franck avec vous. Très heureux de vous retrouver comme tous les troisièmes mercredis de chaque mois pour l'émission À toi les étoiles, qui comme son nom l'indique est une émission consacrée à l'astronomie. Vous le savez, depuis le mois dernier, je vous propose, chers auditeurs, de choisir vous-même les sujets des prochaines émissions. Enfin, si vous en avez envie, cela ne veut pas dire que je suis à court de sujets, bien au contraire, mais bon, si certains auditeurs ont envie qu'on aborde certains sujets qui n'ont pas été abordés, eh bien, il ne faut pas hésiter, hein. Vous pouvez me contacter au 01 34 12 12 22 ou par email par l'intermédiaire du site d'IDFM. Le mois dernier, justement, nous avions parlé des phénomènes aéronautiques, non identifiés, et donc c'était sur la suggestion d'un auditeur. Eh bien, pour cette émission du mois de juin, on va parler aussi d'un sujet qui a été suggéré par plusieurs auditeurs cette fois-ci, c'est de la planète Mars. C'est le thème exact, c'est dernières nouvelles de la planète Mars. On a déjà parlé de Mars dans de précédentes émissions d'À toi les étoiles, mais ça remonte à février 2005. Donc il y a quand même eu beaucoup de choses depuis, du nouveau. Et donc pour en parler aujourd'hui, je me reçois Monsieur Richard Henneman, président de l'association Planète Mars. Monsieur Henneman, bonjour.
Bonjour.
Merci beaucoup d'avoir accepté cette invitation à cette émission À toi les étoiles. Et pour commencer, tout d'abord, la première question, qu'est-ce que l'association Planète Mars ?
Alors, l'association Planète Mars est une association loi 1901 qui se propose de promouvoir l'idée d'exploration de la planète rouge et de faire connaître cet astre, cette planète qui est au fond la sœur de la Terre, qui a pas mal de traits de ressemblance avec la Terre et dont on peut rêver un jour de faire un deuxième lieu de séjour pour l'humanité, pourquoi pas.
Alors justement, c'est pourquoi il y a un tel engouement sur cette planète Mars ? Parce que c'est vrai qu'il y a quand même Mercure, Vénus, Jupiter. Il y a des missions qui vont sur ces planètes aussi, qui vont les observer, les photographier sous toute leur couture. Mais il y a quand même près de 60% de missions, ou 70% même, qui sont consacrées à la planète Mars. Pourquoi un tel engouement ?
Alors l'engouement actuellement au travers de ces missions robotiques, automatiques, est essentiellement scientifique, bien entendu. Et ça, l'intérêt particulier porté à Mars vient du fait de deux choses. Premièrement, c'est que c'est quand même une planète assez semblable à la Terre. Donc, l'étudier, en particulier, étudier l'histoire de son climat, par exemple, peut nous rendre plus intelligents pour comprendre le fonctionnement de la Terre. Et puis, il y a un deuxième grand sujet qui est le sujet de la vie. Est-ce que la vie est née sur Mars ? Et ça, c'est une question à la fois scientifique et philosophique, je veux dire, parce que ça pose la question de notre place dans l'univers.
Voilà, parce que si on parle des températures sur la planète Mars, bon, il fait quand même froid, ça descend à moins 60, ça peut aller même jusqu'à moins 90 degrés, mais parfois aussi ça peut monter dans les alentours de 15-20 degrés en température positive.
Oui, on peut dire au fond que Mars est un désert polaire, hein, c'est-à-dire que c'est une planète qui est à la fois très, très aride, hein, il n'y a de l'eau que sous forme de glace, il y a beaucoup de glace sur Mars, mais il n'y a pas d'eau liquide parce qu'il fait trop froid, et la température, effectivement, c'est la gamme de température que vous avez signalée.
D'accord. Alors justement dans ces découvertes de la planète Mars, alors on peut donc revenir sur la mission de février 2005 où c'était Gilles Davidovich qui était l'invité. Le thème était Spirit Opportunity un an après. Et je me souviens que ces robots étaient prévus normalement pour fonctionner 3 mois. Là, on en était à un an en février 2005, donc nous en sommes rendus maintenant à 3 ans et demi. C'est quand même une sacrée prouesse. Qu'est-ce qui fait que ces robots, est-ce que déjà les gens de la NASA s'attendaient à une telle longévité
Non, réellement, je crois qu'ils sont assez surpris eux-mêmes de la qualité technique qui a été réalisée donc, par les industriels qui ont fabriqué ces robots. Tant mieux, je dirais, hein, parce que ils ont été capables de parcourir des distances qu'on n'avait pas du tout prévues au départ, hein, puisqu'en 90 jours, on aurait pu peut-être parcourir de l'ordre de 900 mètres ou quelque chose comme ça. Et là, ils ont fait plusieurs kilomètres, jusqu'à 6-7 kilomètres. Mmh. Et cette longévité a permis d'accéder à des sites particulièrement intéressants au point de vue géologique, ce qui évidemment n'aurait pas pu être fait dans le cadre d'une mission limitée à 90 jours. Donc ça a été vraiment un plus.
Alors justement, si on revient sur les découvertes de ces robots, on a découvert des choses très intéressantes du point de vue géologique. On a la supposition, ça c'est pas nouveau, qu'il y a de l'eau sur la surface de Mars.
Alors, il y a eu de l'eau liquide en abondance dans le passé. Maintenant, ça c'est vraiment un fait avéré. Les différentes sondes actuellement au travail autour de Mars ont apporté leur contribution à ces preuves, mais effectivement le rover, enfin, le petit engin qui se trouve à la surface de Mars, Opportunity, nous a permis de constater, je dirais, des visus, de toucher du doigt des roches sédimentaires qui sont une preuve que de l'eau liquide a stationné à la surface de Mars pendant relativement longtemps. Mais aujourd'hui, il n'y a pas d'eau liquide, bien que une autre sonde, Mars Global Surveyor, ait photographié des ravines sur des espèces de torrents, si vous voulez, asséchés sur les flancs de cratères ou de vallées qui ont l'air, on pense de plus en plus, la preuve qu'à certains moments, même dans les temps récents, de l'eau s'écoule sporadiquement en ces endroits.
Oui, voilà, si vous parlez de ces ravines, on disait justement qu'elles sont assez récentes. Enfin, quand je parle récentes, oui. C'est quand même c'est de l'ordre de plusieurs centaines d'années. Mais il y a eu des ravines qui ont été découvertes très récemment, à 4 ans d'intervalle,
voilà,
je crois.
Voilà, c'est-à-dire que cette sonde dont je parlais, la MGS, mm-hmm. a eu la capacité, elle aussi, elle a eu une durée de vie extrêmement longue, puisqu'elle a vécu 7 ans. Grâce à cette longévité, elle a été capable de refotographier à 2 ans d'intervalle, c'est-à-dire l'équivalent d'une année martienne, les mêmes régions. Et à un endroit, on a trouvé, en comparant la même photo du même endroit à 2 années d'intervalle, qu'il y avait une nouvelle ravine qui s'était créée. Alors ça, c'est une preuve presque imparable que ces écoulements sporadiques se produisent encore de temps en temps. Et c'est assez mystérieux, c'est-à-dire que ça montre qu'on ne comprend pas très bien encore comment fonctionne le sous-sol de Mars. Il doit y avoir des poches d'eau liquide qui se trouvent, c'est de la glace qui se trouve réchauffée peut-être par la chaleur magmatique. On ne comprend pas très bien pour l'instant comment c'est possible.
D'accord, donc ce liquide qui s'écoule, en fait, ce serait de l'eau ?
Alors, c'est de l'eau, on en est pratiquement sûr aujourd'hui, mais ça, probablement de l'eau très salée, une espèce de saumure, parce que la plupart des roches qui ont été examinées par Spirit et Opportunity sur leur site d'atterrissage respectif montrent que là où le sol, les roches ont été travaillées par de l'eau, cette eau, dans le passé, a déposé de très grandes quantités de sel. Alors, pas seulement du chlorure de sodium, du sel de table, mais des sulfates, etc. Donc, on pense que l'eau qui se trouve actuellement dans le sous-sol de Mars pourrait être très chargée en sel, et ce qui pourrait expliquer qu'elle reste liquide même à des températures négatives. Parce que vous savez que quand on met du sel dans de l'eau, le point de congélation descend. Hein. C'est-à-dire que l'eau reste liquide même en dessous de 0 degré.
Tout à fait. Alors, je rappelle aux auditeurs qui peuvent poser des questions à notre invité Richard Henneman en direct en téléphonant 01 34 12 12 22 ou par l'intermédiaire du site www.idfm98.fr, rubrique message live. J'en aurai d'ailleurs tout à l'heure des questions à vous poser qui sont tombées avant l'émission et puis qui vont sûrement tomber aussi pendant l'émission. Je voudrais qu'on parle un peu de la sonde Mars Global Surveyor qui avait observé des changements que la planète Mars serait active. On parle de séisme sur la planète, de mouvements de tectonique de plaques, un peu comme Terre.
Pas vraiment. Enfin, à ma connaissance, les changements qu'on a observés, il y a ceux dont on vient de parler, là, les ravines, et il y a également des écoulements secs sur des dunes. Il y a sur Mars des grandes dunes de poussière et de sable, et on a là aussi vu des changements, c'est-à-dire des petites mini-avalanches, si vous voulez, qui se produisent sur ces champs de dunes à certains endroits. Ça, on l'a vu, mais bon, ça, c'est un phénomène relativement facile à expliquer. À ma connaissance, j'ai peut-être des informations qui me manquent, mais non, on n'a pas constaté d'activité sismique pour l'instant sur la planète. Hein. Elle semble assez calme actuellement. Hein.
Mmh. En tout cas, on s'y intéresse de près, bien sûr. Et puis, cette sonde, c'est Mars Global Surveyor, je crois, qui a été perdue récemment.
Oui, tout à fait.
Récemment, enfin, ça fait déjà quand même quelques mois. On parle d'une panne informatique, en fait, qui aurait provoqué cette perte.
Oui, en fait, ça a été, évidemment, on est assez content qu'elle ait duré déjà tout ce temps-là, mais effectivement, les ingénieurs ont cherché à comprendre ce qui s'était passé. On s'est aperçu en fait que c'était une erreur humaine, c'est-à-dire qu'il y a une mise à jour de logiciel qui a été envoyée, un peu comme si vous rebootiez votre ordinateur, celui qui a été envoyé à la sonde pour améliorer quelque chose. Et en fait, il y avait une erreur dans une adresse de mémoire, et cette erreur a conduit à ce que, à un moment donné, la sonde perde le sens de l'orientation, oriente mal ses panneaux, donc l'énergie électrique n'a plus été fournie et on n'a pas été capable de restaurer la communication avec la sonde.
Alors on parle justement dans les documents qui ont été écrits, les articles qui ont été écrits justement par rapport à cette perte de Mars Global Surveyor, on dit qu'en fait la sonde aurait été mal orientée et aurait orienté un côté qui n'aurait jamais dû être exposé au soleil.
Oui, absolument, elle a été capable du fait d'une erreur de données en fin de compte de s'orienter convenablement suite à une manœuvre qui lui avait été ordonnée, mais c'est, je dirais qu'elle n'est pas fautive, c'est vraiment une erreur humaine, comme bien souvent hein, quand il y a des incidents de nature plus mécanique hein, sur les fusées par exemple, quand on fait les enquêtes, bien souvent on se rend compte que c'est soit une erreur humaine ou soit une négligence dans le management des faits qui n'ont pas été pris en compte de façon correcte, comme ça a été le cas par exemple dans les accidents de la navette.
En effet, mais bon, de toute façon, là où il y a des humains, je ne sais plus qui avait dit ça, un philosophe qui avait dit là où il y a des humains, il y a des erreurs humaines.
Bien entendu, et par contre, ce qu'il faut bien noter aussi, c'est que là où il y a des humains, il y a des possibilités de réparation ou de sauvegarde qui n'existe pas avec des robots. Un exemple, par exemple, qui m'a beaucoup frappé, c'est justement le petit rover Opportunity, qui à un moment s'est trouvé ensablé dans une petite dunette de 30 cm de haut seulement. Il s'est retrouvé à patiner, il était coincé. Bon, on a mis un mois à le sortir de là parce qu'on a fait ça avec précaution. Il est évident que s'il y avait eu un homme à bord de cet engin, il aurait fait comme dans le Paris-Dakar, hein, il serait descendu, il aurait
poussé,
dégagé la roue et c'était fini. Là, vous voyez, donc l'homme, c'est vrai, à la fois, il peut être source d'erreur, mais aussi, et ça, je crois que c'est un énorme avantage, de par sa capacité d'initiative et de jugement, il est capable de réparer des situations qu'un robot ne peut pas réparer.
En effet. On va marquer une première pause musicale, monsieur Henman, et puis on va se retrouver ensuite pour la suite de cette émission des dernières nouvelles de Mars. Et on va écouter comme morceau M, Mathieu Chédid, le fils du chanteur, avec un titre live en tête à tête. 13h18 sur IDFM Radio Anguin, c'est toujours l'émission À toi les étoiles, comme tous les troisièmes mercredis de chaque mois, avec comme invité aujourd'hui Richard Henman, président de l'association Planète Mars, et le thème donc dernière nouvelle de Mars. Alors j'ai des questions internet qui me sont tombées sous les yeux là, et on demande où en sont actuellement les deux robots Spirit et Opportunity.
Alors Spirit, il a un petit problème de vieillissement, il a une roue qui est coincée. Mais bon, il continue quand même à avancer qu'un cas. Et évidemment, on ne va pas lui faire parcourir des kilomètres. Hein, mais il se trouve qu'il est dans une zone géologiquement très intéressante. Donc, il continue ses investigations. Et quant à Opportunity, il a atteint un grand cratère dont il est en train de faire le tour pour reconnaître les falaises du bord du cratère et essayer de voir s'il pourra descendre dedans. Il faut trouver un endroit pas trop risqué parce que là, les aplombs seront quand même assez impressionnants.
Oui, voilà. Parce qu'il faut savoir qu'il y a un risque quand même, il faut faire attention qu'on ne condamne pas le robot après, qu'il ne puisse plus sortir.
L'accident est arrivé, hein, et puis ce sont quand même des engins relativement fragiles, complexes, il faut faire attention, on ne veut pas les brusquer. Ils disposent quand même de peu de puissance, hein, c'est-à-dire ils ont des moteurs électriques de quelques centaines de watts, donc c'est pas un tout-terrain, hein, il faut vraiment faire très attention.
C'était donc une question de Stéphane, j'avais oublié de préciser. Si on parle justement par rapport aux robots, il y a aussi, on a parlé des sondes qui étaient en orbite autour de la planète. Combien y a-t-il actuellement de sondes autour de Mars ?
Alors, il y a la sonde européenne Mars Express qui est en orbite depuis fin 2003, qui a fourni des résultats tout à fait intéressants et qui continue à fonctionner. Il y a Mars Odyssey qui est en orbite, si je me souviens bien, depuis longtemps, ensuite de 2001. Qui est une sonde américaine, et il y a depuis le mois de novembre dernier à l'œuvre Mars Reconnaissance Orbiter, qui est une sonde, alors là, avec une résolution, des détails d'images absolument étonnants, de l'ordre de 30 cm, c'est-à-dire que, évidemment, ça donne une vue comme si presque on y était, de certaines zones de Mars.
Alors justement, par rapport à cette sonde, il y a eu des découvertes intéressantes qui ont été faites. Notamment, on a trouvé des cavités géologiques, c'est-à-dire un peu comme le gouffre de Padirac en France. Alors on explique pour les auditeurs. Donc sous le plancher, il y a eu des éboulements et un beau jour, le plancher s'est écroulé et ce qui a donné naissance donc à ce gouffre de Padirac qui est profond de plusieurs centaines de mètres et il n'est pas le seul. Bien sûr, et on sait, les géologues savent, que quand par exemple il gèle la pierre fendre en surface, eh bien au fond de ce gouffre on peut avoir des températures positives. Et on s'est aperçu récemment grâce à cette sonde qu'il y a justement sur Mars là aussi des cavités géologiques, un peu comme le gouffre de Padirac, et là on s'y intéresse beaucoup.
Ben oui, ça c'est une découverte tout à fait récente. Alors effectivement, je dirais que c'est une collaboration entre deux sondes, la sonde Mars Odyssey qui fait des photographies en infrarouge et donc qui est pas capable de distinguer les forts contrastes de température, et là ces trous qui sont quand même assez grands, de l'ordre de 100 mètres de diamètre, apparaissaient très nettement, et ils ont ensuite été photographiés par la sonde Mars Reconnaissance Orbiter, donc qui a une résolution beaucoup plus fine, et on a en particulier récemment a été publiée une photo stupéfiante où on voit cette entrée de gouffre, donc sur un terrain en pleine lumière vous avez un cercle presque parfait, complètement noir. Alors c'est vraiment surprenant parce que ça veut dire que il doit y avoir un surplomb à l'intérieur parce que on ne voit absolument pas le fond ni les parois du trou. Donc c'est très impressionnant, surtout vu la taille et la forme circulaire presque parfaite. Moi je me demande comment une forme aussi parfaite a pu se former et comment ça se fait qu'on voit pas les parois de ce trou. Donc c'est une espèce de... On a ça aussi sur Terre à certains endroits. Lanzarote, par exemple, vous avez un gouffre comme ça dont le toit est en surplomb, hein, un petit peu. On pense que en l'occurrence, il s'agit de tunnels de lave, parce qu'on trouve ça dans des terrains, des flancs de volcans, qui se sont effondrés et qui ont donné naissance à ces choses tout à fait étonnantes. Alors c'est intéressant du point de vue de la biologie, parce qu'effectivement les températures peuvent être différentes, et également ce sont des niches écologiques éventuelles protégées des ultraviolets, ce qui est évidemment intéressant, parce que le niveau d'ultraviolet à la surface de Mars est 600 fois plus puissant que sur la Terre. Donc c'est vraiment stérilisant normalement.
D'accord, en effet, donc on va s'y intéresser, évidemment, on va s'y intéresser de plus près. J'ai une question internet qui vient de me tomber à l'instant sous les yeux de Stéphane, encore une fois, qui demande par rapport au robot Spirit Opportunity, est-ce qu'il y a un successeur ou un ou des successeurs qui sont prévus ?
Absolument, à ma connaissance, il y en a deux qui sont sérieusement engagés. Alors celui qui partira le premier, c'est un gros rover de à peu près 500 kilos. Je rappelle que Opportunity et Spirit pesaient dans les 180 kilos. Donc vous voyez la différence de taille, 500 kilos, qui de plus, au lieu d'être alimenté par des panneaux solaires, donc avec une puissance de l'ordre 400 watts, qui est quand même très limitative, sera alimenté par des générateurs électriques à radioisotopes qui vont lui donner beaucoup plus de puissance et sur une durée pratiquement illimitée. Et ce rover devrait être lancé en 2009, c'est un rover américain, Et pour la première fois, il fera également des recherches à caractère biologique. On n'en a pas fait depuis les Vikings en 1976. Donc là, maintenant, on va continuer à faire de la géologie, mais on va faire aussi de la recherche biologique avec ce rover. Et puis, il y a un projet européen qui s'appelle ExoMars, qui vient d'être lancé il y a à peu près un an, et dont le lancement est maintenant prévu en 2013. Et qui lui aussi sera à peu près de la taille de Rover Opportunity, mais lui, il sera réellement en grande partie dédié à la biologie. Donc il portera énormément d'expériences très intéressantes pour essayer de détecter des traces de vie passées ou présentes.
C'est là qu'on voit justement, c'est ce que disait Gilles Davidovich en février 2005, l'évolution des robots. Quand on voit le premier robot Pathfinder, c'était ça, oui. qui était bien plus petit et qui a eu
une boîte à chaussures.
Voilà, et oui. Qui a une autonomie de 3 semaines, je crois, quelque chose comme ça. Ensuite, on a Spirit Opportunity. Là, ça fait plus de 3 ans et demi, qui sont quand même plus conséquents. Et puis là, donc, on parle de rover encore plus imposant et une durée de vie illimitée.
Il est comme les autres, il aura des pannes électroniques ou mécaniques à un moment donné. Mais ce que je veux dire, c'est qu'en matière d'énergie, il sera, contrairement au rover actuel, il sera bien doté en énergie, donc il pourra rouler plus vite, il pourra avoir des instruments plus puissants, qui consomment plus de courant, etc. Donc c'est quand même un avantage sérieux.
Oui, parce que c'est vrai qu'on voit pour Spirit Opportunity, ils prennent leur temps. Quand on voit dans les comptes rendus, des fois sur votre site, justement Planète Mars, on dit tiens, tel jour, il a parcouru 26 mètres. On se dit 26 mètres sur 24 heures, c'est pas énorme.
Ce qu'il faut bien réaliser, c'est qu'ils sont vraiment limités par l'énergie. 400 watts, vous vous rendez compte, c'est la puissance maximum que ces panneaux solaires peuvent collecter quand tout va bien, quand ils sont bien illuminés en plein midi, etc. Donc il est obligé de fonctionner à l'économie, donc de rouler lentement. En plus, il doit charger ses batteries pour se réchauffer la nuit, parce que, comme vous l'avez dit, les températures peuvent baisser de 60 ou 82 degrés au cours de la nuit, parce que l'atmosphère est très mince sur Mars, donc il n'y a pas cet effet de couverture qu'on a sur la Terre. Et donc, l'électronique, le cœur électronique de l'engin, lui, doit être maintenu à une température suffisante pour pas qu'il tombe en panne. Donc ça consomme de l'énergie aussi.
Bien sûr. Pour en revenir donc aux découvertes sur Mars, Mars Odyssée, c'est de ça qu'on disait. On parlait de Mars Odyssée. Voilà, il y a eu d'autres découvertes aussi sur la cartographie du sol martien.
Ah oui, il y en a eu beaucoup. Alors Mars Odyssée en particulier a à son bord un instrument tout à fait extraordinaire. Bon, le nom est un petit peu ésotérique. C'est un spectromètre à rayon gamma et à neutrons qui permet, le résultat c'est que cet engin permet de détecter la présence d'hydrogène dans le sol. C'est une espèce de système qui permet donc de savoir la concentration d'hydrogène, c'est-à-dire d'eau de façon précise, parce que l'eau est formée d'hydrogène et d'oxygène. Et grâce à cet instrument, on a été capable de dresser une carte de la planète entière, de la quantité de glace d'eau qui se trouvait dans le sous-sol. Mais dans le sous-sol, pas à des centaines de mètres de profondeur, dans les deux premiers mètres en fait, parce que cet engin ne pénètre pas plus loin que ça. Et à la surprise, la surprise de certains, mais d'autres l'avaient prévu, je dirais, on constate que les deux premiers mètres du sol de Mars sont déjà très imbibés de glace d'eau. C'est ce qu'on appelle le permafrost ou pergélisol, ce qu'on a un petit peu en Sibérie, vous voyez, dans ces régions où le sol est un mélange de terre et de glace qui ne dégèle jamais parce que les températures sont trop froides. Mais on a ça sur Mars, alors avec des concentrations différentes, évidemment, mais au-dessus de 50 degrés de latitude des deux côtés des pôles, la proportion de glace dépasse 50%, c'est énorme. Et dans certaines régions équatoriales, où il fait plus chaud, elle reste encore supérieure à 10%. Donc il y a vraiment de la glace d'eau partout sur Mars. Et on se demandait où était passée toute cette eau liquide qui a coulé autrefois sur Mars et qui a laissé des traces de vallées, de vallées de fleuves importants partout sur la surface. Et bien en fait, cette eau, elle a pénétré dans le sous-sol de Mars, qui a été pulvérisé par les chocs d'astéroïdes tout à fait au début de la vie de la planète. Et c'est une espèce d'éponge. Et quand la planète s'est trouvée changer de climat et refroidir brutalement, cette eau a gelé.
Question internet de Bernard qui demande qu'est-ce qui fait que Mars a perdu son eau.
Ben, justement, elle l'a pas perdu en fait. Elle a dû en perdre une partie. Parce que par dissociation dans l'atmosphère en oxygène et hydrogène, l'hydrogène s'enfuit en fait ensuite dans l'espace. Il y en a probablement une partie aussi qui a été éjectée lors d'impacts majeurs de gros astéroïdes qui ont soufflé l'atmosphère. Mais la majeure partie de l'eau, en fait, maintenant on le sait, elle se trouve dans le sous-sol. Alors là, on a pu mesurer que les deux premiers mètres, mais évidemment... On sait que cette couche fracassée de roche, elle doit faire plusieurs centaines de mètres d'épaisseur. Donc tout laisse à penser que le jour où on fera des forages profonds, c'est le jour où on aura envoyé des équipages humains sur Mars qui seront à même de faire ces forages profonds, on va trouver du pergélisol, de la glace dans ces profondeurs. Et qui sait, suffisamment profond, peut-être des poches d'eau liquide, puisque vous savez que dans une planète, quand on s'enfonce, la pression augmente, la température augmente, donc à un moment donné, on doit trouver des conditions d'eau liquide. Donc, il y a probablement des nappes aquifères dans le sous-sol de Mars. Alors, cette eau, elle est donc dans le sous-sol, mais elle est aussi sur les calottes polaires. Alors, pendant un moment, on savait depuis longtemps que la calotte polaire nord était une banquise de glace d'eau, essentiellement. On s'est aperçu que la calotte polaire sud l'est également. Et surtout, on a mesuré que ces calottes s'étendaient bien au-delà de ce qu'on voit quand on la regarde au télescope, la planète, parce qu'il y en a une grande partie qui est recouverte de poussière. Et ensuite, grâce à des mesures par radar, en particulier par la sonde Mars Express, on a été capable de mesurer l'épaisseur de cette banquise et on a constaté qu'elle est énorme, elle est de 1,5 km. Donc dans la calotte polaire de la pôle de Mars, il y a autant de glace pratiquement qu'en Groenland. Vous voyez, c'est quand même beaucoup d'eau.
En effet. Mais pour approfondir la question de Bernard, est-ce qu'il y a eu en fait une... Parce que donc l'eau n'est pas disparue complètement, mais qu'est-ce qui fait qu'avant elle coulait?
Il y a eu un changement de climat, il y a eu une crise climatique majeure dans l'histoire de Mars, probablement vers 3,8 milliards d'années en arrière. Je rappelle que les planètes du système solaire se sont formées il y a 4,5 milliards d'années, donc vers 3,8 milliards d'années, brutalement, le climat de Mars a changé. C'est-à-dire qu'avant, on avait une planète probablement plus froide que la Terre quand même, parce que plus éloignée du Soleil, mais quand même relativement tempérée, puisqu'on a des traces d'écoulement d'eau en quantité, donc de l'eau coulée à la surface de Mars. Et il y avait probablement aussi des glaciers qui fondaient, etc., des lacs ou des lacs gelés. Et puis, vers 3,8 milliards d'années, tout d'un coup, Mars est devenu, enfin tout d'un coup, peut-être... en 100 ou 200 millions d'années,
oui, hein, ça,
à l'échelle géologique, Mars est devenu l'astre aride et au froid polaire qu'on connaît aujourd'hui. Qu'est-ce qui a provoqué ça? Bon, la cause directe, c'est que Mars a perdu la presque totalité de son atmosphère. L'atmosphère aujourd'hui est très ténue. La pression, c'est l'équivalent de la pression qu'on a sur Terre à 35 km d'altitude. Et du fait de la perte de cette atmosphère, la température a chuté brutalement. Maintenant, qu'est-ce qui a causé la perte de cette atmosphère? Il y a plusieurs hypothèses qui ont cours actuellement. On ne peut pas vraiment l'affirmer aujourd'hui.
On va marquer une seconde pause musicale, Richard Hellman, et puis on se retrouve après pour la suite de cette émission. Toujours sur les dernières nouvelles de Mars, je vous rappelle que vous pouvez poser vos questions en direct par le www.idfm98.fr ou par le téléphone 01 34 12 12 22. Gilbert Montagnier, The Flood, c'était en 1971, et c'est tout de suite sur IDFM Radio Anguin.
Votre radio IDFM Radio Anguin est en danger. Vous aimez et écoutez régulièrement IDFM Radio Anguin? Sachez que si vous habitez Paris ou les départements 77, 78, 91, 92, 93, 94 et le sud du 95, à partir de septembre 2007, vous ne pourrez plus capter et donc entendre IDFM Radio Anguin. En effet, le nouveau plan des fréquences franciliennes prévoit de bâillonner IDFM Radio Anguin à partir de septembre 2007, en limitant la puissance d'émission de notre émetteur vers le sud à 40 watts au lieu des 4000 actuels, ce qui nous coupera de la très grande majorité de nos auditeurs. Notre seul soutien pour éviter ce naufrage, c'est vous, auditrices et auditeurs. Merci d'envoyer d'urgence votre message de soutien au CSA, CTR, Monsieur le Président Michel Boyon, Tour Mirabeau, 3943 quai André Citroën, 75 739 Paris Cedex 15, ou par internet www.csa.fr, rubrique contact, au bas de la page d'accueil du site.
Et on compte sur votre soutien si vous voulez que À toi les étoiles continue bien au-delà du mois de septembre. Retour donc dans les studios avec Richard Henneman, président de l'association Planète Mars. Le thème, je vous le rappelle, est donc dernière nouvelle de la planète Mars. On a parlé donc de tout ce qui s'est passé, enfin de tout. Non, parce qu'il y a tellement de choses qui s'est passé entre février 2005 et à présent. On a quand même parlé de pas mal de choses. Est-ce que vous vouliez rajouter certaines choses par rapport à ces découvertes depuis 2 ans et demi?
Oui, enfin, je pense que il se passe en ce moment, au moment où nous parlons, des choses très importantes dues à la nouvelle sonde dont on parlait tout à l'heure, Mars Reconnaissance Orbiter, parce que il est certain qu'avec une acuité visuelle qui permet de détecter des détails de l'ordre de 30 cm, c'est une nouvelle planète qu'on découvre. Et là, on en est qu'au début, puisqu'il est opérationnel depuis le mois de novembre. Et il envoie tellement de photos, tellement de nouveautés que je dirais les scientifiques eux-mêmes sont un petit peu débordés. Il faut leur laisser temps d'analyser tous ces résultats et d'en tirer les conclusions. Mais on a déjà un premier aperçu. Hein, il y a un certain nombre de choses qui ont été révélées. Et on commence à faire sur Mars maintenant de la géologie à une autre échelle et donc découvrir des choses tout à fait stupéfiantes sur les processus qui ont été à l'œuvre au niveau géologique à la surface de Mars.
Mmh. Si on en a terminé avec ceci, eh bien on va passer maintenant au futur, oui. Futur de la planète. On a parlé un petit peu tout à l'heure des fameux robots, les successeurs de Spirit Opportunity. Il va y avoir aussi d'autres sondes.
Oui, alors il y a en particulier, le nec plus ultra de l'exploration robotique de Mars, c'est le projet de retour d'échantillons. Alors ça, il y a très longtemps qu'on en parle. Au début, il y a une dizaine d'années, on envisageait même que ces missions devraient être en train de se réaliser à l'heure où nous parlons. Malheureusement, on s'est rendu compte que techniquement, déjà, c'était quand même assez compliqué, hein, donc coûteux. Et aujourd'hui, on parle plutôt de 2015-2020 pour accomplir ces missions. Alors, quel est le but, là? C'est de faire poser un engin à la surface de Mars, un petit rover, qui aille sélectionner des échantillons soigneusement, hein, faut pas prendre n'importe quoi, si possible, des pierres intéressantes, qu'il les remet dans une capsule, dans
un conteneur.
Un conteneur. Mmh. Et ce conteneur est renvoyé en orbite autour de Mars, fait rendez-vous avec un satellite qui l'attendait, et ce satellite renvoie le conteneur d'échantillons vers la Terre. Vous imaginez que c'est quand même assez complexe. Mmh. Enfin, on a les briques technologiques, il n'y a rien de nouveau, mais la difficulté, c'est que tout marche bien, hein, que tout s'enchaîne bien. Et ça, c'est un projet auquel les scientifiques tiennent beaucoup, parce que ça leur donnerait l'occasion d'étudier dans les laboratoires terrestres, finalement, qui sont bien plus puissamment équipés que ce qu'on peut envoyer à la surface de Mars sur un petit robot de 100 kg, d'étudier donc des échantillons dont on est sûr de la provenance et de la propreté, si on est sûr qu'il n'a pas été pollué. Parce que c'est vrai qu'on a, sur Terre, on a trouvé une trentaine de météorites qui sont d'origine martienne, mais ces météorites, elles ont séjourné sur Terre avant qu'on les trouve, donc on peut craindre qu'elles aient été polluées, on n'est jamais complètement sûr. Là, évidemment, on disposerait d'échantillons absolument clairs et nets dont on pourrait... Par exemple, si on trouvait des traces de bactéries dans ces échantillons-là, il n'y aurait pas de discussion possible, alors que quand on en retrouve dans des météorites martiennes qu'on a récoltées sur Terre, il se pose toujours cette question.
Mmh, oui, parce qu'il y a eu justement, il y a de cela quelques années, une météorite martienne qui a été trouvée sur Terre. On avait dit qu'il y avait une bactérie fossilisée.
Et c'était en 96 que cette affaire a éclaté.
Voilà.
Effectivement, il y a un groupe de scientifiques dont on ne peut pas réfuter le sérieux, je pense, qui avait trouvé 5 ou 6 indices différents qui concouraient à leur faire dire que probablement de la vie, on avait trouvé une trace presque évidente de vie au sein de ce petit caillou. Bon, ça a été battu en brèche par d'autres scientifiques. Je dirais que c'est le caillou qui a été le plus étudié au monde, probablement. Il y a eu une foule de travaux qui ont été faits sur ces échantillons. Et aujourd'hui, 90% de la communauté scientifique conclut que ce ne sont pas qu'il n'y a pas de preuve que ça pourrait très bien être produit par des processus non biologiques. Et il y en a 10% qui continuent à penser que c'est bien une trace de bactéries fossiles.
Enfin, il y en a qui disent aussi que c'est un fossile terrien, en fait, se serait fossilisé sur le caillou.
Oui, ça, c'est justement, c'est ça la difficulté, c'est de quand on trouve quelque chose sur la Terre, il y a toujours le risque de pollution par des organismes terriens. C'est quand même assez troublant. Je trouve que je me range quand même dans les 90% de la communauté qui conclut que c'est pas probant, mais c'est quand même il y a des choses intéressantes dans ces trouvailles.
Bien sûr. On a vu au 20e siècle l'homme marcher sur la planète, sur la Lune, pardon. C'est incontestable. On verra l'homme marcher sur Mars au 21e siècle. C'est une question de Stéphane qui demande, est-ce qu'on a une estimation de date pour le premier homme sur Mars?
Oui, malheureusement, je dirais oui. Elle est pas très encourageante parce que on n'est plus du tout dans le même état d'esprit qu'au moment d'Apollo. Je rappelle que Apollo, ça a été réalisé à partir de rien. Quand la décision a été prise en 61, on ne connaissait rien, hein, ni sur la Lune, ni sur l'homme dans l'espace, ni dans les fusées. Et 8 ans après, on était sur la Lune. Bon. Eh bien là, pour donner une idée, donc les Américains viennent de décider en 2004 de repartir dans l'espace, en commençant par un retour sur la Lune. Eh bien, il planifie ce retour sur la Lune en 2020. C'est-à-dire qu'on va mettre 16 ans pour refaire ce que nos grands-pères ont fait, et ça fera 50 ans. On va mettre deux fois plus de temps. Et l'étape martienne n'est prévue qu'après. C'est-à-dire que dans l'esprit des politiques et des décideurs de la NASA, la Lune doit servir de lieu de répétition pour s'aguerrir, tester les matériels avant de faire le grand saut vers Mars. Et donc ça va se situer plutôt vers 2030 si tout va bien. Donc voilà, si vraiment on était à nouveau dans une ambiance Apollo aujourd'hui, ça pourrait être fait en 12 ans. Là, vous voyez, on va mettre 25 ans pratiquement, quoi. Alors c'est un petit peu navrant, mais il faut être réaliste, on n'est plus du tout dans le même contexte politique, hein, on n'est plus dans un contexte de guerre froide, même si le fait que les Chinois commencent à avoir de grandes ambitions certainement a dû réveiller aussi un petit peu la vigilance des Américains.
Bien sûr. Oui, donc on ne sait jamais, il y aura peut-être un rebondissement.
Il y aura peut-être un rebondissement, mais vous savez, c'est difficile de prévoir les événements qui pourront agiter la planète d'ici là. Hein. Il peut y avoir des éléments favorables, et puis il peut y avoir aussi des grandes crises économiques ou des crises politiques mondiales qui freinent ces choses-là. Tous ces programmes sont très dépendants des aspects politiques et des aspects économiques.
Et puis il y a des contraintes quand même, parce que pour aller sur Mars, il faut plus de temps que pour aller sur la Lune. Et alors je participais, j'étais vendredi dernier à Paris pour Paris Fête l'Espace, et il y avait Jean-François Clairvoy, je crois, qui disait que s'il y avait un pépin en cours de route, on était obligé d'aller jusque sur Mars pour retourner sur la Terre. En fait, il n'y avait pas moyen de faire demi-tour.
D'ailleurs, entre nous, c'était la même chose pour la Lune. Vous vous souvenez peut-être d'Apollo 13, à l'aller, donc ils ont eu ce gros pépin, ils ont dû aller jusqu'à la Lune, faire le tour de la Lune et revenir. Pour Mars, ça sera pareil. La seule différence, c'est la durée du trajet. Hein. Aller jusqu'à la Lune, ça prend 3 jours et demi. Aller jusqu'à Mars, ça prend 6 mois. Et en fait, donc, effectivement, pour aller vers Mars, on va choisir une trajectoire telle que si on a un pépin pendant cette trajectoire aller, ou si à l'arrivée on décide qu'on ne peut pas atterrir sur Mars pour une raison quelconque, on revient librement vers la Terre sans rien faire. Mais ça prend 2 ans. Voilà, au lieu d'une semaine, l'aller-retour, ça prend 2 ans. Et ça, on n'y peut rien. C'est du fait de l'éloignement et de la mécanique céleste, du mouvement des planètes. C'est impossible de faire autrement. Donc, ça, c'est la grosse différence, hein, qui pose donc de très sérieux problèmes en matière de fiabilité des équipements. Il faut que les équipements soient très costauds, résistent beaucoup plus longtemps. Et de comportement psychologique aussi de l'équipage. Il faut que les gens soient capables de supporter, non pas pendant 10 jours, mais pendant 2 ans et demi. Et puis également, ça oblige à concevoir le vaisseau et ses équipements de façon à ce qu'ils puissent être réparés. C'est ce à quoi je faisais allusion tout à l'heure. On dit souvent que c'est un inconvénient d'avoir des hommes à bord, bien sûr, parce que ça oblige à des contraintes de sécurité. Mais profitons-en de façon à ce que, si un équipement tombe en panne, eh bien, il soit réparable, c'est-à-dire qu'il soit facile à démonter, interchangeable, etc. Vous voyez, il faut profiter de l'inconvénient.
Tout à fait, oui. Tout à fait. Toujours dans le dans la perspective du futur de la planète, on a parlé des vols habités. Il y a aussi au niveau des robots, on en a parlé des sondes aussi. Qu'est-ce que au niveau de l'Europe ou des États-Unis, parce que est-ce qu'ils travaillent main dans la main ou est-ce qu'il y a des projets chacun de leur côté?
Alors la situation, c'est que l'initiative, elle a été clairement relancée par les Américains, hein, parce que faut bien reconnaître qu'il y a quelques années, les perspectives de vols habités, d'exploration par l'homme du système solaire étaient quand même assez enterrées, hein, on n'en parlait pas trop. Et donc depuis que les Américains ont décidé de se relancer là-dedans, pour des raisons qui sont expliquées dans mon livre en particulier, eh bien, ça a réveillé un petit peu l'intérêt des autres puissances spatiales, et en particulier de l'Europe, hein, qui avait déjà depuis 2001, avec le programme Aurora, réfléchi quand même à ces perspectives. Et actuellement, on assiste à des discussions qui sont déjà assez avancées pour essayer de voir comment on pourrait établir une coopération internationale sur cette affaire. L'idée étant plutôt d'avoir ce qu'on appelle un programme de programme, c'est-à-dire qu'on ait un certain nombre de programmes relativement indépendants, de façon à ce que s'il y en a un qui décide d'arrêter, l'autre puisse continuer, mais qui soit coordonné de façon à ce qu'on ne refasse pas chacun la même chose. Hein. Par exemple, on pourrait très bien décider que l'Europe lancerait une sonde automatique pendant que les Américains lanceraient un autre type de sonde en orbite et des choses comme ça. Vous voyez, pour essayer de coordonner les efforts de façon à maximiser le retour sur investissement, mais en gardant quand même son indépendance.
J'ai une question internet qui m'amuse, qui me disait lorsque le premier homme a posé le pied sur la Lune, donc Neil Armstrong, il a planté un drapeau américain sur la Lune. Oui. Est-ce que sur Mars, on verra un drapeau des Nations Unies ou un drapeau américain?
Alors réellement, je pense que si les Américains, à supposer que ce soit eux qui arrivent les premiers, faisaient l'erreur de planter un drapeau américain, je pense qu'ils ruineraient le bénéfice politique qu'ils pourraient attendre de cette démonstration. Ils n'ont plus besoin de prouver qu'ils sont très en avance technologiquement. Ce dont ils ont cruellement besoin, c'est de regagner l'estime des peuples du monde entier. Et donc je pense qu'ils ont tout intérêt à montrer le plus possible qu'ils en soient capables, parce que ça leur est quand même difficile, qu'ils font ça au nom de l'humanité, pour le bien de l'humanité tout entière. Donc je ne sais pas si ça sera un drapeau des Nations Unies, parce qu'il faudrait pour ça que les Nations Unies s'impliquent moralement et pécuniairement, je dirais. Mais par contre, ça peut être un ensemble de drapeaux de tous les partenaires internationaux. Et c'est vraiment ce qu'il faut souhaiter. Je suis persuadé que c'est ce qui se passera.
On va faire une dernière pause musicale, Monsieur Hennemann, et puis on se retrouve ensuite pour conclure les 10 dernières minutes de cette émission. Et alors, ironie du sort, j'ai fait un peu exprès quand même, j'ai choisi Claude François avec Le Martien. C'est original, je connaissais pas ce titre de Claude François que je découvrais comme vous. C'est l'émission À toi les étoiles, on arrive bientôt au terme de cette émission. Je vous rappelle que le thème aujourd'hui, eh bien, c'est Dernières nouvelles de Mars avec Richard Hennemann, président de l'association Planète Mars. Monsieur Hennemann, vous avez aussi écrit un bouquin, vous l'avez évoqué tout à l'heure, un livre qui s'appelle Planète Mars, une attraction irrésistible aux éditions Alvic. Alors, est-ce que vous pouvez nous donner quelques mots sur ce livre?
Oui, ce bouquin, je l'ai écrit essentiellement pour développer les motivations. Hein, parce qu'on trouve beaucoup de livres qui décrivent la planète, soit qui décrivent la façon dont on l'explore ou dont on l'explorera. Bon, là, le but, c'était surtout d'essayer d'expliquer aux lecteurs pourquoi on s'intéresse à l'exploration spatiale et plus spécialement à Mars. Alors, les raisons scientifiques, mais aussi les raisons de développement économique, les motivations géostratégiques, les motivations sociétales. Parce que faut bien voir que ces programmes-là, quand même, coûtent relativement cher et sont donc à supporter par les gouvernements des grandes puissances. Et donc, c'est une question politique. Donc, c'est très intéressant au strict plan scientifique, c'est la motivation de base, mais s'il n'y avait que ça, probablement qu'on ne se lancerait pas dans ce genre d'aventure.
On arrive bientôt au terme de cette émission, Monsieur Hennemann. Je voulais terminer quand même par une dernière question internet que j'ai gardée pour la fin de l'émission, puisqu'en fait elle est hors sujet. C'est une question d'un auditeur, Jean, qui demande Monsieur Richard Hennemann n'aurait-il pas un lien de parenté avec Jean Hennemann décédé au début des années 2000? Alors je lui ai répondu effectivement, vous êtes son frère. Et alors il m'a posé la question suivante, j'aimerais savoir où en sont les travaux de monsieur Jean Hennemann, puisqu'il y avait des travaux en cours. Est-ce que lors de son décès les travaux ont été abandonnés ou ont-ils été repris par d'autres scientifiques?
Alors en fait, Jean faisait ses travaux dans le cadre de l'Académie internationale d'astronautique en particulier, et donc avec des collègues, en particulier un collègue italien, qui a continué donc ses investigations dans ce domaine-là. Bon, c'est pas mon domaine, donc je ne le suis pas particulièrement, mais j'ai rencontré cet astronome il y a quelques années dans un congrès, et il faisait une présentation qui était tout à fait la suite donc des travaux de Jean Hennemann. Mais il faut bien reconnaître que les recherches SETI, c'est-à-dire, c'était son sujet, hein, oui. Les recherches sur les intelligences extraterrestres, ne sont pas très financées. Il n'y a pas beaucoup de gens qui croient à l'intérêt de ces travaux-là, ce qui est bien dommage, parce que ça ne coûte pas très cher quand même. Et donc, mais ça se continue quand même. Il y a toujours une activité aux États-Unis, en France, sur ce sujet.
D'accord, donc les travaux de M. Hennemann continuent. Très bien, on arrive donc au terme de cette émission, et comme vous le savez, la tradition veut que l'invité donne le mot de la fin. Alors M. Richard Hennemann, le mot de la fin pour cette émission consacrée à Mars?
Ben, le mot de la fin, c'est que il faut bien réfléchir, chacun d'entre nous en tant que citoyen, non seulement aux problèmes qu'on rencontre chacun dans notre vie ou qu'on voit autour de nous dans le quotidien ou dans le court terme, c'est important évidemment d'y attacher l'importance, mais qu'il faut aussi se préoccuper de l'avenir dans tous les domaines et de la préparation de l'avenir. Donc il est clair que ce genre de thématique comme la recherche spatiale, bon, à certains ça apparaît, je dirais pas inutile, mais tellement lointain, tellement sophistiqué, tellement loin des préoccupations quotidiennes que beaucoup se demandent pourquoi on va dépenser de l'argent là-dedans. Moi, je crois qu'une société ne peut négliger aucun domaine. Il faut faire des efforts dans tous les domaines, et en particulier dans les domaines de la recherche. Il ne faut rien négliger non plus, que ce soit la biologie, l'électronique, la recherche spatiale. On est obligé de s'intéresser à tout parce que des découvertes qu'on fait dans un domaine ont des retombées dans des domaines qu'on n'imaginait pas au départ. Hein.
On l'a vu avec la conquête de la Lune, d'ailleurs.
Tout à fait. Hein. Si une société ou un pays comme la France ou un ensemble de pays comme l'Europe venait à se désintéresser du long terme et ne se préoccuper que du moyen ou du court terme, ben elle serait sûre d'ici 20 ans d'être complètement surclassée par d'autres nations plus dynamiques. Donc il faut, je crois, soutenir ces programmes-là, s'y intéresser, et puis se dire que c'est un investissement sur le long terme.
C'était le mot de la fin. Merci Monsieur Hennemann d'être venu aujourd'hui dans les studios d'IDFM Radio Anguin pour ce thème Dernière Nouvelle de Mars. Ainsi se termine cette émission À Toi les Étoiles. On se donne rendez-vous le troisième mercredi du mois de juillet avec une nouvelle émission. Et rappelez-vous, l'été dernier, du 21 juin jusqu'au 20 septembre, c'est-à-dire pendant toute la saison de l'été, j'avais délocalisé l'émission. Je faisais des émissions enregistrées au préalable à l'extérieur des studios. On va réitérer ceci cette année, mais seulement pour le mois de juillet et août. Et comme en plus nous fêtons les 50 ans de la conquête spatiale, eh bien, je peux d'ores et déjà vous dire que les émissions de juillet et août délocalisées, eh bien, on parlera de ces 50 ans de l'espace. Monsieur Hennemann, merci beaucoup.
Merci à vous.
Rendez-vous donc le troisième mercredi du mois de juillet, et vous allez maintenant retrouver tout de suite Espace Jeune avec l'association Chemin Faisant. Bon après-midi à toutes et à tous à l'écoute d'IDFM Radio Anguin.